beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il est question d'un aveugle qui était mendiant. Par suite de son état d'aveuglement, et cet homme savait que Jésus pouvait le guérir. C'est ainsi que lorsqu'il a su que Jésus passait près de son lieu de mendicité, il a appelé Jésus. Mais comme Jésus était entouré par la foule, cet homme a réitéré son cri et il a crié même plus fort, à tel point que Jésus s'est approché de lui. Donc il a demandé qu'on le fasse venir, il est venu et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer la vue. Et c'est là que Jésus-Christ a guéri cet homme. Vous vous imaginez la joie de cet homme de pouvoir voir. C'est extraordinaire. Quand on est aveugle, pouvoir voir les arbres, le ciel, je crois que cet homme, c'était le plus beau jour de sa vie. Mais cet homme aussi pouvait laisser faire et rester aveugle. Il pouvait se laisser aller. Nous allons parler du fait de se laisser aller. En se laissant aller, nous allons vers la mort, vers des souffrances certaines et dures à régler. Cet homme pouvait, parce que ça paraissait être difficile d'atteindre Jésus, il pouvait, comme on dit en français, se résigner et dire, bon, je ne peux pas l'atteindre, ben, ça sera pour une autre fois. Mais il était conscient lui-même que l'autre fois n'était pas sûr. Même La Fontaine l'a dit, un tien vaut mieux que deux tu auras. Donc ce que tu as, c'est beaucoup plus sûr que deux que tu ne vois pas. Et cet homme a dit, non, moi je ne veux pas me laisser aller. Je veux me battre. Il a crié et Jésus est venu. Jésus l'a guéri. Vous savez, une petite blessure qu'on peut se faire par une lame de rasoir ou bien par un petit choc, normalement, devrait entraîner notre mort. Vous savez pourquoi nous ne mourons pas quand nous nous blessons? Parce que nous nous blessons presque une fois par semaine. Après, la blessure se cicatrise rapidement ou plus ou moins rapidement. Et puis, on retrouve une vie normale. Mais pourquoi on ne meurt pas? Parce que normalement, on devrait mourir. Parce que la blessure va s'accentuer, va faire entrer les microbes. Et nous allons vivre ce qu'on appelle la septicémie, donc les microbes qui ont infesté tout notre corps, et puis on meurt. Mais on ne meurt pas parce que nous avons un système en nous, qu'on appelle le système immunitaire, avec les globules blancs, qui combattent dès qu'il y a des corps étrangers qui entrent dans notre corps. Donc dès qu'il y a un corps étranger, les globules blancs résistent à ce corps-là. Il l'entoure, il détruit ce corps, ils font ce qu'on appelle phagocyté. Donc, parfois, ils avalent le microbe et ils détruisent le microbe en eux, quoi. C'est ça le travail des globules blancs. Un travail de résistance à la nuisance. C'est ce qui fait que, bien-aimés, aujourd'hui, nous tous, nous sommes vivants. Pourquoi un malade de sida meurt très vite à l'époque, hein, à l'époque où il n'y avait pas les médicaments d'aujourd'hui? C'est parce que le virus du sida détruit justement ce système-là immunitaire, ce système-là qui résiste au corps étranger. Lui, son travail, c'est de détruire ce système-là. Ce qui fait que n'importe quelle maladie, même la diarrhée qui t'attrape, le sidéen à l'époque mourait de diarrhée. Le sidéen à l'époque mourait de boutons. Mais puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas des éléments pour bloquer la multiplication des boutons, puisque le système immunitaire est attaqué par le virus, tu vas vers à la mort. Alors que toutes les maladies dont mouraient les sidéens, sur un homme normal, n'entraîneront pas du tout la mort, même sans médicaments. Mais le corps, parfois lui-même, va résister. Et les médicaments que nous prenons ont pour objectif de fortifier le système qui existe déjà et de permettre la guérison rapidement. Parce que quand vous voyez dans la nature les lions, les antilopes, les singes, mais ils n'ont pas de médecin, mais ils se blessent, mais ils guérissent parce qu'il y a le système immunitaire qui agit et qui les guérit. Il y a une résistance, un refus de se laisser aller. C'est le refus de se laisser aller qui permet qu'il y ait la vie aujourd'hui sur Terre. Donc le corps a un système qui refuse de se laisser aller. Donc quand il y a une intrusion dans le corps résiste. Quand nous voyons beaucoup de gens dans la rue qui sont devenus sans domicile fixe, ou bien qui sont devenus bandits, qui sont devenus membres des gangs, des mafias. Parfois, quand vous discutez avec eux, vous allez vous rendre compte que c'était un tout petit problème. C'était un tout petit problème, peut-être pour nous, mais c'est un problème que beaucoup d'autres vivent et dont qui surmontent. Une déception amoureuse, et puis on commence avec l'alcool et on se laisse aller. Et petit à petit, on commence par 2 verres un jour, 4 verres, et il n'y a pas une force pour te secouer, pour te dire « réveille-toi ». Il n'y a pas le système immunitaire social pour te secouer, te dire « réveille-toi ». C'est ça la réalité. Les gens atteignent des états graves parce qu'ils se sont laissés aller. Ils se laissent aller. Et vous allez voir quelqu'un qui en arrive à tuer pour obtenir une dose de cocaïne. On voit aux États-Unis des gens qui tuent parce qu'il a besoin de $100 pour avoir une dose d'héroïne, une dose de cocaïne. Mais vous vous demandez, on dit, mais c'est un mauvais. Il n'est pas plus mauvais que nous. Il s'est laissé aller. Au début, c'était un besoin pressant. Au début, ce n'était même pas un besoin pressant. Au début, c'était une fête d'amis. On dit, mais pourquoi pas goûter? Et pourquoi pas tu goûtes? Tu répètes ça une fois, 2 fois. Après, ça commence à devenir une envie et on se laisse aller. Et en se laissant aller, on atteint une étape qui devient difficile à gérer. Une étape compliquée et c'est la mort qui s'ensuit. Si le monde existe, bien-aimé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas se laisser aller. Ils ont dit non, on va résister à l'atmosphère générale. Aujourd'hui, il y a des gens qui, pour eux, c'est normal d'être homosexuel. Parce qu'ils se sont laissés aller à l'ambiance générale. Et ils ont fini par vivre cet état-là et en considérant que c'était normal. On a suivi à la télé, il y a un monsieur, un Français en Thaïlande, qui disait, mais moi, j'aime les petits-enfants. Vous voulez que je fasse quoi? Et comme là-bas, il avait cette possibilité-là, il vivait avec un petit enfant. Et il disait, mais moi, j'aime ça, j'aime les petits-enfants. Et on va dire, mais c'est un monstre. Mais non, il a commencé par être comme nous. Il a eu des tentations et il s'est laissé aller. Il n'a pas voulu résister à ces tentations-là. Un des problèmes qui nous guette tous, c'est le fait de se laisser aller. Il y a des tentations fortes, il y a des pressions fortes, et on ne résiste pas. On dit, ben, c'est plus fort que moi, ou bien alors, on est là comme distrait, comme en train de rêver, et on se laisse aller. Et ça arrive très, très, très loin. Parce qu'on n'a pas voulu résister. Vous savez, notre ex-président, il a loupé la présidence parce qu'il n'a pas pu se calmer devant un passant, un badaud. Quelqu'un qui lui a dit, mais ne me touche pas, tu me salis. Lui qui est président, il n'a pas pu se contenir devant un tel homme. Et il a loupé, vous savez, bien-aimé, Sarkozy a loupé d'1% environ. Et normalement, avec le système de marketing politique d'aujourd'hui, c'est un homme qui serait président aujourd'hui. Mais vous voyez comment, quand on se laisse aller, on ne sait pas résister, on ne sait pas faire front aux pulsions qui nous malmènent. Et parfois, on justifie ça, parce que le danger avec ce laisser-aller, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on finit par justifier nos pulsions en les traitant de normales et en disant que céder à ces pulsions, c'est ça qui est logique. Et cet homme qui est président, vous savez, président, ce n'est pas n'importe quoi. Je dis souvent aux bien-aimés, il faut arriver à l'aéroport de Roissy. Quand vous êtes à Roissy, imaginez ce que c'est que le directeur de Roissy. Donc, une institution immense comme ça. Quand vous voyez ce que c'est que Roissy, le nombre d'avions qui descendent, le nombre de couloirs, le nombre de... C'est immense comme machine. Mais imaginez que le directeur de ça n'est rien du tout par rapport au président de la République. Ce sont des petits pions pour le président de la République. Il peut les enlever. Voilà. Il faut imaginer, c'est quoi un président? Il a environ 4 avions à sa disposition. Un président, c'est quelqu'un de très puissant. C'est comme si le pays était à lui. Mais vous voyez comment cet homme a loupé tout ça juste parce qu'il n'a pas, il s'est laissé aller devant quelqu'un d'insignifiant. Quelqu'un de rien du tout. Et aujourd'hui, il n'est plus président. Se laisser aller amène toujours très, très loin. On est là, on est léthargique, on ne bouge pas, on laisse les choses faire. Et je vous l'ai dit, si notre corps se comportait comme nous, on se comporte en se laissant aller, on ne serait plus vivant. Ça veut dire que tous les microbes qui entreraient, notre corps, les globules blancs ne réagiraient pas et ça serait la mort. Même une petite blessure entraînerait la mort. Réveillons-nous. Ne nous laissons pas aller. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Il est écrit ceci. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Si vous avez déjà regardé les films animaliers à la télévision, vous allez remarquer que ce verset-là est réel. Les lions observent un troupeau d'herbivores pendant un temps. Ils observent, ils regardent, ils attendent le moment où un va être distrait, il va se laisser aller, ou bien il va s'écarter sans s'en rendre compte du troupeau. Voilà, ils attendent le moment favorable où la gazelle, l'antilope, se laisse aller à vagabonder, à s'éloigner du troupeau. Ils attendent le moment où l'antilope se laisse aller à rester derrière les autres. Et c'est en ce moment-là qu'ils attaquent l'animal. Se laisser aller, ça finit toujours mal. Ça finit par la destruction. La vie est un combat. Comme on dit dans le monde, la vie, c'est un combat. Donc nous devons rester dans une attitude de combat. Rêver d'une vie où il n'y aurait pas la menace sur terre, c'est un faux rêve, c'est impossible. Sur terre, la menace est là à tout moment. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une réalité. Le monde anesthésié n'existe pas, aseptisé n'existe pas. Nous devons prendre conscience de cela et être actifs, vigilants. Cet homme-là, qui était aveugle, Bartimée, il pouvait dire, oh, tout le monde est contre moi. Je ne peux pas atteindre Jésus. Il s'est dit, mais si je n'atteins pas Jésus, mais je vais rester aveugle. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 11, 12, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Il s'est dit, oh, mais si je suis la masse qui refuse, parce que les gens disaient à l'aveugle, mais tu es en train de déranger le maître, tais-toi. Il dit, mais si je me tais pour satisfaire la foule, je vais rester aveugle. Il est écrit qu'il a crié plus fort. Parfois, l'atmosphère ambiante nous pousse à dire, oh, mais fais comme tout le monde. Tout le monde vole. Tout le monde ne déclare pas tout aux impôts. Toutes les entreprises ont une double comptabilité. Fais comme tout le monde. Transforme ton CV, ajoute des choses, fais comme tout le monde. Prends une petite copine, fais comme tout le monde, prends un petit copain. Et ça vient avec une pression. Comme c'est tombé sur cet aveugle-là, vous savez, déjà vous êtes aveugle, mais en plus vous entendez les gens autour de vous. Vous êtes aveugle, vous ne les voyez pas. Donc ça rend encore la menace plus forte. Vous entendez, vous sentez bien que vous gênez. Et on vous dit, tais-toi, tu gênes. Alors qu'est-ce que en temps normal, cet aveugle aurait fait, dit, oh, je ne vais pas m'attirer encore les problèmes là. Je suis un pauvre aveugle, perdu, mendiant. Mais non, il s'est dit, là, il faut user de résistance et de violence. Il faut refuser cet état des choses. C'est ça la réalité. Il a dit, je ne veux pas me laisser aller. Je veux me battre. Beaucoup de jeunes me disent, bon, je n'ai pas encore décidé, pasteur, par rapport au monde et Dieu. Moi, je dis, mais vous vous laissez aller. Le jour du retour de Jésus, vous ne le connaissez pas. Il y a des jeunes aussi qui meurent. Vous vous laissez aller. Vous ne savez pas où ça va finir. Comme quelqu'un me disait autrefois quand j'étais petit, il me disait, mais tu sais, l'aventure par définition, on ne sait pas comment ça finira. L'aventure, on ne sait pas comment ça finira. Bon, pasteur, j'hésite encore. Je suis encore attiré par le monde. Mais oui, mais tu ne sais pas où ça finira. Tu sais seulement que tu es attiré. Et tu ne veux pas résister, mais tu te laisses aller. Tu subis le monde. Mais il faut savoir que ça finira très très mal. Parce qu'il y a des gens avant toi qui ont laissé le monde les assujettir, les dominer. On subit, on dit mais c'est comme ça, tout le monde est dedans. Les chrétiens seuls sont des gens bizarres, exceptionnels. Et on te dit, je vais me laisser aller, faire comme tout le monde. Non, bien-aimé, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Cet aveugle a dit, moi je vais manquer de respect à Jésus. Parce que pour ces gens-là, crier comme ça vers Jésus, c'était manquer de respect. Tais-toi! Il a dit, oh, mais moi c'est quand même, il s'agit de mes yeux là. Moi, si je ne fais rien là, je perds. Il a dit, s'il faut que ça passe comme un manque de respect, au moins, c'est le seul moyen que moi j'ai de résister. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Élie. L'histoire est un peu longue, mais on ne va pas lire cette histoire encore. On a déjà lu ça à plusieurs reprises dans cette salle. C'était le sacrificateur. C'était le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'était le grand prêtre de l'époque. Cet homme-là avait deux enfants. Donc, par héritage filial, ils étaient aussi des sacrificateurs. Phinéas et Ophni. C'était ses enfants. Eh bien, ces enfants-là, qui étaient des sacrificateurs eux-mêmes, faisaient souffrir le peuple quand le peuple venait amener des sacrifices au temple. Ils faisaient souffrir le peuple quand ils menaient le sacrifice au tabernacle. Ils prenaient la viande. Sans permission, ils mettaient une fourche sur la viande et emportaient. Et le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. Mais voilà les sacrificateurs. Et lui-même, le papa, s'est rendu compte que ses fils se comportaient mal. Il prenait même les femmes et il s'amusait avec les femmes dans le tabernacle. Et le père lui-même est parti les voir pour vous faire prendre conscience que le père lui-même a constaté que c'était mauvais. Il est parti les voir pour leur dire, mais mes enfants, là vous vous créez des problèmes avec Dieu. Quand on fait des problèmes à un homme, Dieu peut être au milieu. Mais quand vous faites des problèmes à Dieu, qui va vous défendre? Mais il s'est arrêté là. Pourtant, il était souverain sacrificateur. Donc, il était leur chef hiérarchique dans le travail. Donc, il devait prendre des sanctions sur ses enfants. Mais il n'a pas pris parce qu'il était faible par rapport à ses enfants. Bien-aimé, Dieu a envoyé encore un avertissement à ce souverain sacrificateur. Il a envoyé un homme adulte lui parler. Peut-être c'était un ange qui est venu en homme. Il s'est laissé toujours aller. Vous savez, s'il s'est laissé aller, c'est bon, je parlerai demain, je vais prendre des mesures. Et puis finalement, à force qu'on ne le fait pas, on finit par trouver une stratégie qui ne va plus nous déranger. Bon, je vais faire ceci. Et on oublie les premières mesures qu'on avait décidées. Donc, on trouve un moyen de s'en sortir. Et lui, il est resté comme ça, léthargique, laissant ses enfants continuer leurs bêtises. Mais peut-être il se disait, mais je leur ai déjà parlé, c'est leur problème avec Dieu. C'est faux, c'est toi le responsable, tu devais prendre des mesures, il n'a pas pris. Et ensuite, puisqu'il n'a pas compris toujours, Dieu lui envoie Samuel, le petit, un enfant encore, pour aller lui dire, voilà, puisque tu n'as pas compris, voilà la décision de Dieu, tes enfants mourront en un jour. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guerre, ses enfants sont partis, sont morts le même en un jour, les deux. Et quand on est venu lui annoncer la nouvelle, il est tombé. Il était sur une place élevée, il est tombé de sa place et il est mort lui aussi. C'est pour nous dire, se laisser aller, ça finit toujours mal. Dieu n'attend pas de nous que nous solutionnons tout. Au contraire, il attend de nous juste la réaction. Quelle est notre réaction? Quand je vois quelqu'un esclave de l'alcool, quelle est ma réaction? Je dois me dire non, il faut faire attention à ça. C'est cette réaction-là que Dieu veut. Quand tu vois les pécheurs où ils finissent, toi qui es jeune, quelle est ta réaction? Non. Vaut mieux que je me mette sous la protection de Dieu dès maintenant. Je ne veux pas attendre. Comme certains attendent d'avoir 30 ans. Mais tu peux ne pas avoir ces 30 ans-là. Beaucoup d'enfants sont enlevés, tués aujourd'hui. Et même avant, il y a des accidents. Il y avait des accidents. Beaucoup attendent. Mais se laisser aller, comme pour le corps, ça mène à la destruction. Ça finit toujours comme ça. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où des gens se sont laissés aller. Et ça a beaucoup détruit. Nous devons résister. Et quand nous résistons, comme 1 Pierre 5 nous le dit, c'est la foi qui doit nous faire résister. Nous connaissons le bon exemple d'un enfant, d'un jeune, qui a réagi. Lisons dans Luc 15. Il a réagi, il a dit non, ça ne peut pas continuer ainsi. Ça ne peut pas continuer ainsi. Ça va finir où? Luc 15. Il y a des gens qui ont peur par rapport à l'argent. Ils ont tout le temps peur par rapport à l'argent. Il en faut toujours plus. Il faut que le compte soit sécurisé. Toujours peur. Et quand tu te sens, tu commences à devenir malade par rapport à l'argent comme ça. Ne te laisse pas aller parce que ça peut finir très très mal. Pourquoi les gens se suicident quand ils sont licenciés? Ne croyez pas que c'est le licenciement qui les fait suicider. C'est d'abord un esclavage. Ils se sont laissés aller d'abord. L'argent commençait à avoir une emprise sur eux. Et au moment où ils sont licenciés, ils sont dépassés. Et c'est la dépression, c'est le craquage et c'est le suicide. Parce que la personne s'est laissée aller petit à petit à devenir esclave de l'argent. Ça commence par se laisser aller. Les choses ne viennent pas brutalement. Il y a une étape où on se laisse aller. On se laisse aller. On se laisse aller. On ne réagit pas. On se dit, ça viendra, et ça finit mal. Alors qu'il fallait réagir avant. Nous lisons Luc 15, il est écrit au verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voilà. Il a dissipé toute la richesse en se laissant aller. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ils commencèrent à se réjouir. Et pendant le temps que lui s'est laissé aller, il loupait une telle vie. Il était là, il avait beaucoup d'argent, il s'est laissé aller dans la débauche, tout est fini. Au lieu de se réveiller, de dire, tiens, Je n'ai plus rien. Ne dois-je pas retourner auprès de mon père? Non, il a voulu encore se battre, se laisser aller par l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil qui fonctionne. Au lieu de chercher Dieu, on veut se battre par soi-même. L'orgueil est en train de fonctionner. On se laisse bercer par l'orgueil. On se laisse entraîner par l'orgueil. Et il en est arrivé à manger moins bien que les cochons. C'est là qu'il s'est dit, non, je mets un stop à tout ceci. Mon conseil est le suivant. N'attends pas d'atteindre des points extrêmes pour mettre un stop. Quand tu sens qu'il y a l'amour charnel pour les choses de la terre qui commence à te prendre, réagis. Il n'y a pas de honte à avouer auprès de Dieu comme cet enfant a avoué. Mais il a avoué tard. Réagis. Dis à Dieu, je suis anormal. J'ai telle envie et je sais que ces envies-là me mèneront à ma ruine. Aide-moi, sauve-moi. Mais lorsqu'on se laisse aller, on fait semblant de n'avoir aucun problème. Dis à Dieu, j'ai un problème de haine, j'ai un problème d'orgueil, j'ai un problème de colère, j'ai un problème, je tiens trop au bling-bling. Dis à Dieu, il ne te demande pas de résoudre, il te demande de réagir. Réagis et crie à lui. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne nous laissons pas aller. Tu es là, tu subis des pressions. Tu subis des voix. Tu subis l'esprit diabolique vient te dire, ben, ta femme est moche. Et tu te laisses aller. Tu l'acceptes une fois, deux fois, trois fois, et c'est comme ça que pas à pas, tu en arrives au divorce. Ça commence par se laisser aller, hein? Alors que tu devrais réagir. Non, on se laisse aller. Vous vous souvenez d'Éphésiens 4, 26 qui nous dit quoi? Mais que la colère, quand tu as la colère, il ne faut pas se coucher sous la colère. Beaucoup de gens se laissent aller. Vous savez, parfois la colère fait du bien. Hein? Quand tu es fâché, tu te sens parfois bien, fort. Parce que tu te donnes raison. Et la raison, ça donne du bien, ça fait du bien. J'ai raison. Et tu dors en colère. Qu'est-ce que comme un somnifère. Mais quand tu dors comme ça, les démons disent, aïe, on nous a laissé le champ libre. Il n'y a pas de globules blancs. Il n'y a pas de pénicilline. Allez, on attaque les messieurs comme il faut. Et tu t'es endormi en colère, mais tu te réveilles dans la haine. Et la destruction commence comme ça. Quand la Bible dit ça, mais il ne faut pas se coucher sous la colère. C'est vraiment la logique de se laisser aller. Ne te laisse pas aller. La colère est venue. Bon. Maintenant, avant de dormir, parce que pendant que tu dors, tu ne te défends plus, tu n'agis plus. Donc, la chose avec laquelle tu te couches va continuer à travailler en toi pendant que toi, tu dors. Donc, tu te laisses aller. Il ne faut pas dormir avec la colère. Quand on est en colère, humilions-nous. Disons, Seigneur, je m'humilie pour mon bien et le bien des autres. D'ailleurs, il est écrit, celui qui est son frère est un meurtrier. Parce que pendant qu'on dort sous la colère, on autorise les mauvais esprits à nous travailler et à travailler notre esprit pour faire du mal aux autres. C'est pourquoi on dit qu'on est un meurtrier par la Bible, dans la Bible. Nous ne devons pas nous laisser aller. Certains ont tué par colère. Et ils ont regretté ça 10 minutes après seulement. Ils ne pensaient pas tuer, mais ils se sont laissés aller. 10 minutes à peine après avoir commis le meurtre, ils regrettent déjà parce que ce n'était pas ça l'objectif. Mais la colère les a entraînés. Il ne faut pas se laisser aller. il faut résister quand on sent qu'on est entraîné par quelque chose qui semble nous dépasser, mais qui est mauvais, qui va nous détruire. Il faut résister. Il faut résister à l'atmosphère ambiante qui nous entraîne dans le mal. Résister à la pression des enfants. Résister à la pression du quartier. Résister à la pression sociale qui veut nous entraîner à accepter que le mal est bien maintenant et le bien c'est le mal. Il faut résister. Je veux clôturer en disant, il faut résister à deux choses. À l'entraînement du péché, il faut résister à ça. Ne laissons pas le péché nous entraîner petit à petit à des états parfois irréversibles. Crions au Seigneur, demandons-lui de l'aide. Vous savez, Jésus, on lui a posé la question suivante, combien de fois dois-je pardonner? Il a dit 70 fois, 7 fois. Si Jésus demande à un homme de pardonner 70 fois, 7 fois, lui-même il va pardonner combien de fois? Infiniment. Donc au lieu de s'asseoir sur le mal qui t'entraîne. D'ailleurs, il y a, dans le monde, on dit le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber. Voilà, donc, c'est justement la règle n'est pas à suivre. Donc, au lieu de s'asseoir dessus en disant, bon, vous savez, c'est comme l'air que nous respirons. Tu peux arriver dans un quartier, tu sens que l'air n'est pas bon, mais tu es déjà dedans. Tu finis par t'habituer puis tu respires. Voilà. Tu te laisses aller. Là, c'est la même chose avec la pression du péché. Lorsque on ne résiste pas en se repentant, même s'il faut se repentir 100 fois par jour, vaut mieux le faire. Plutôt que dire, ah ben je viens de me repentir, je vais encore le faire. Et se laisser aller. Non, il faut refuser de se laisser aller. Quitte à se repentir 50 fois, 100 fois, 30 fois. Voilà, c'est notre expression de résistance. C'est comme ça qu'on résiste. C'est comme ça qu'on dit aux forces des ténèbres, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira au loin. Quand on se soumet à Dieu, on refuse de se laisser aller parce qu'on se dit, mais non, mais je me laisse aller dans ce qui n'est pas bon. Non, je refuse. Je reconnais que c'est mauvais et j'ai commis le péché. Seigneur, je te demande pardon. Je refuse ça. Et je demande ton aide, Seigneur. Refusons de nous laisser aller. Beaucoup ont mal fini parce qu'ils se sont laissés aller. Deuxième chose, les difficultés de la vie. Refusons de nous laisser aller. Il ne faut pas que les difficultés de la vie nous ôte la foi, nous enlève la foi, nous enlève la joie d'être des enfants de Dieu. Dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, il est question d'un troisième terrain où la plante, le grain qui était sur lequel, quand le grain tombait sur ce terrain-là, ça a produit une belle plante. Mais c'est un terrain rempli d'épines, et Jésus explique que les épines ont étouffé la belle plante qui naissait, et par la suite, il explique que les épines, ce sont le souci de la vie. Il dit que ça peut étouffer la vraie vie de Dieu, et que la plante finisse par mourir. Et donc, quand on commence à se laisser aller dans les soucis de la vie, on finira mal. On finira par voler. On finira par avorter. On finira mal. Parce qu'on se laisse aller par les soucis de la vie. On regarde la montre. On veut telle chose à tel âge. On veut telle autre chose à tel moment. On regarde les autres. On a envie d'avoir les mêmes choses. On a envie d'avoir les mêmes maisons. Les soucis de la vie. Ça va tuer la vraie foi. Et quand ta foi est morte, tu es perdu. Parce que 1 Jean 5, 4 nous dit que La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Maintenant, quand tu n'as plus de foi, tu es perdu. Nous devons refuser de nous laisser aller. Je me souviens un moment, je m'inquiétais pour une de mes sœurs qui n'était pas encore mariée. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que dans la Bible, il y a une date pour se marier? Est-ce qu'il y a un âge donné pour se marier? Je me suis tue et j'ai continué ma marche avec le Seigneur dans la joie. Il recommanda le problème entre ses mains. Alors, est-ce qu'on dit qu'on ne doit pas chercher des solutions à nos problèmes? On ne l'a pas dit. On dit quand les problèmes nous assaillent comme ça. Mais résistons. Comment résister? En demandant, en priant le Seigneur. S'il faut louer, on loue Dieu. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut jeûner, on jeûne. Mais parlons à Dieu, crions à Dieu. Lui seul est la solution. Pourquoi se laisser aller dans les soucis, dans la tristesse, ce qui va produire la dépression, qui va ôter la foi et qui va nous faire... Jésus dit, vos inquiétudes ne peuvent pas rallonger même 6 mois de votre vie. L'inquiétude n'a jamais payé. Si l'inquiétude produisait de l'argent, on l'aurait su. Dans l'humanité, tout le monde serait riche. Mais l'inquiétude n'a jamais payé. C'est la foi qui paye, la foi en Dieu. Alors, au lieu de laisser les soucis nous submerger, prenons ces soucis. Philippiens 4, 6 à 7, nous allons lire. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Mais si maintenant on a prié, on n'a pas toujours eu, on supplie. On n'a pas toujours eu. Eh bien, on loue, on chante, on remercie parce qu'on croit que Dieu a donné quand même. Et Paul nous dit que Dieu nous donnera une paix. Cette paix-là nous fera continuer une bonne marche chrétienne dans la joie. Dans la joie et dans la foi sur terre. Parce que le but de tout, c'est quoi? C'est d'être heureux. Alors, lorsqu'on a la paix, on est heureux. C'est ça l'objectif. L'objectif de l'homme, c'est être heureux. Or, Dieu peut donner le bonheur sans avoir donné la chose que nous attendions. Mais on peut recevoir le bonheur à l'avance. Pourquoi ne pas saisir ce bonheur en attendant de voir la chose que nous voulons? Saisissons-le. Mais comment? En réagissant, en résistant par la prière. En amenant nos problèmes à Dieu dans la prière. Et quand tu as vraiment prié, quand tu as vraiment supplié, quand tu as vraiment parlé à Dieu, tu reçois une paix qui te fait asseoir dans l'assurance de l'exaucement. Tu es sûr que tu es exaucé et tu es tranquille. Tu attends le jour de voir cet exaucement. C'est ça que Dieu attend de nous. Il ne veut pas qu'on se laisse aller. Bien-aimés, beaucoup se sont détruit en se laissant aller. Beaucoup, en suivant de mauvais amis, on se laisse aller par amitié, et ça finit en prison. Par amitié, toujours. Condamnation à mort, par amitié, toujours. On se laisse aller. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En se laissant aller, on se corrompt, et ça finit mal. En conclusion, bien-aimés, résistons. En nous-mêmes, nous n'avons pas de force, mais disons à Dieu, je suis animé de mauvais penchants, je suis animé de mauvais désirs, mais je sais que ces mauvais penchants et ces mauvais désirs m'amèneront à ma destruction. Je ne veux pas être détruit. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Et je te prie de me sauver, de m'aider, et le Seigneur agira. Que ce soit par rapport au péché, que ce soit par rapport aux soucis de la vie, si on lui dit qu'on est submergé, mais on n'est pas d'accord de se laisser submerger, il agira parce qu'il est fidèle. Ne nous laissons pas aller. Nous pouvons faire le malheur de beaucoup de personnes et de nous-mêmes en nous laissant aller. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons besoin tous de Dieu. C'est pourquoi pensons à faire recours à lui comme Bartimée a fait au lieu de se laisser aller. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous prions que tu nous aides à rester dans la foi, Seigneur. Car lorsque nous sommes dans la foi, nous savons que tu existes et nous pouvons te faire recours à chaque fois. Beaucoup se sont laissés aller en se disant « Aujourd'hui, après-demain, je verrai ça. Ce n'est pas le moment. Je goûte juste un peu. Après, je ne prendrai plus. » Et ils ont mal fini. Certains ont fait semblant de n'avoir aucun problème. Mais les problèmes, ils étaient là. Et ils se sont laissés aller. Ils ont mal fini. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à ne pas nous laisser aller. À avoir le comportement que les globules blancs ont lorsqu'il y a intrusion, ils réagissent. Même s'il y a un médicament qui peut venir les fortifier, mais ils ont une réaction d'abord par eux-mêmes immédiate. Que nous aussi, nous soyons comme ces globules blancs. Lorsque nous sentons qu'il y a une intrusion par rapport à notre relation avec toi, par rapport à notre communion avec toi, par rapport à notre avenir, lorsque nous sentons qu'il y a un danger qui est venu, que nous ayons l'humilité et la foi de réagir et de demander ton aide, de demander ton soutien. Quitte à se repentir 50 fois, 100 fois la journée, c'est mieux que de se taire et de se laisser aller, car cela finit mal. Seigneur, nous avons l'exemple devant nous du fait que beaucoup ne te connaissent pas et ils voient bien qu'ils sont en train de mourir petit à petit, mais ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Ils sont comme anesthésiés. Ils ne se posent pas la question, mais après ma mort, j'irai où ? Ils subissent le dépérissement humain jusqu'à la mort comme ça, sans réagir, sans se poser les questions importantes. Seigneur, nous prions que nous ne fassions pas comme eux, subissant sans réagir. Nous voulons réagir, nous ne voulons pas laisser les choses se détruire en nous et autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce sursaut pour dire non. Seigneur, je préfère m'attacher à toi.